C'est l'heure de votre journal, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'ascension du Bitcoin qui dépasse la barre des 9 000 $ hier à New York. Explication du phénomène dans un instant avec Marie Viénot. Un conseil des ministres et un projet de loi sur le droit à l'erreur. Le texte veut considérer l'usager ou l'entreprise comme étant de bonne foi dans ses démarches administratives. Précision de Valentine Joubin. Un salarié français sur 4 souffre du stress au travail. Résultat d'une étude auprès de plus de 30 000 salariés qui travaillent dans 39 entreprises dont nous parlera Philippe Duport. Deux jours après l'attaque sanglante dans le Sinaï, le prince héritier saoudien accueille à Riyad des représentants d'une quarantaine de pays musulmans pour évoquer la question terroriste suivie de Nabila Hamel. Et puis les États membres de l'Union européenne se penchent une dernière fois sur le sort contesté du glyphosate. Comité d'appel à Bruxelles, les lignes de division entre les États ne semblent guère avoir bougé depuis l'impasse du premier scrutin. On sera en ligne pour en parler avec José Bové à la fin de cette édition et dans la dernière partie de la grande table, Laetitia Gesbert.
Harcèlement sexuel, violence faite aux femmes, quel cadre pour une discussion critique? Comment redonner du sens au débat? On va en parler avec notre invité, le philosophe Frédéric Worms, qui a publié vendredi dernier une tribune intitulée « Après la sidération, le temps du trouble, source de clarté » et un que sais-je qu'il connaît. Dirige les 100 mots de la République au PUF. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Et on commence donc par cette ascension fulgurante de la valeur du Bitcoin. Pour la première fois dans l'histoire de cette crypto-monnaie, eh bien cette valeur a dépassé la barre des 9 000 $. Capitalisation boursière, c'est-à-dire valeur de l'ensemble des bitcoins générés dans le monde, qui s'élève à près de 153 milliards de dollars. Le bitcoin qui connaît donc une ascension fulgurante, qui s'accélère depuis le début de l'année au 1er janvier 2017. Son prix n'était peut-être sous les 1 000 $ et le voici maintenant donc à 9 000. Marie Viénot, bonjour.
Bonjour.
Que se passe-t-il? Pourquoi une telle envolée depuis le début de l'année notamment?
Alors l'envolée, elle est permanente avec le bitcoin. Je vous redonne quelques chiffres pour bien marquer les esprits. Cet été, un bitcoin valait 4 000 $. En novembre, on était à 6 000. Jeudi dernier, à 8 000. Et trois jours plus tard, donc, on était au-dessus de 9 000 $. Alors pourquoi ce pic ce week-end? L'une des raisons avancées par les sites spécialisés dans cette crypto-monnaie, c'est tout simplement le nombre d'utilisateurs de bitcoin qui a augmenté de 200 000 entre jeudi et samedi. Et cela ne concerne encore qu'un seul gestionnaire de compte, Coinbase, un site américain qui gère plus de 13 300 000 comptes en Bitcoin. Alors pourquoi plus de gens veulent du Bitcoin? Eh bien parce que ça augmente dans les proportions délirantes que vous avez décrites au début. Et pourquoi cela augmente autant? Parce que ceux qui ont acheté des Bitcoins ne les vendent pas, persuadés que cela va encore grimper et grimper. Or, la création de Bitcoin est limitée. Elle n'est pas fonction de la demande, mais d'un algorithme. Beaucoup de demandes, peu d'offres, logique que la valeur explose. Alors, est-ce une bulle? Cela y ressemble fortement, mais tant que les détenteurs de Bitcoin ne se battent pas pour les vendre, eh bien, la valeur continuera de monter. Et jusqu'où? Tenez-vous bien, un cabinet d'études américain a posé la question à des détenteurs de Bitcoin en leur demandant pour quel prix seriez-vous prêt à vendre tous vos Bitcoins? Et leur réponse n'est pas 9 000 $, mais 196 165 dollars. Il reste donc de la marge pour que ça monte encore.
Alors, que ça veut dire, ça, effectivement, c'est une question aussi. Au départ, le Bitcoin faisait figure de monnaie alternative qui allait se substituer peut-être aux autres. Et puis voilà qu'elle semble vraiment, d'après ce que vous nous dites là, Marie, totalement récupérée par le système spéculatif.
Oui, complètement. Mais les spéculateurs sont multiples, hein, petits, moyens, gros. Au départ, c'était plutôt des amateurs d'ailleurs. Mais depuis quelques temps, c'est vrai, les professionnels s'intéressent aussi au Bitcoin. Il y a maintenant plus de 50 fonds qui sont libellés en crypto-monnaie, dont la plupart en Bitcoin. Chez Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine, il se dit que ne pas croire au Bitcoin aujourd'hui, c'est comme ne pas croire à Internet dans les années 90. Et consécration suprême, dans quelques semaines, le Bitcoin devrait avoir son futur à Chicago. Alors je parle là un peu pour les initiés, mais je vais décrypter. Un futur, c'est un contrat qui permet de dire, je parie qu'à telle date, le prix de tel actif ou telle monnaie ou tel produit financier sera de tant. Bientôt, donc, il y aura un futur sur le Bitcoin, ce qui veut dire qu'il sera possible de spéculer sur le Bitcoin sans en posséder. Car pour vendre ou acheter ces contrats futurs, pas besoin en fait de posséder ce qu'on appelle le sous-jacent, c'est-à-dire la monnaie ou le produit sur lequel porte ce contrat. Alors possible que cette possibilité change le terrain de spéculation et réduise celle qui a lieu sur la monnaie elle-même. C'est le début de la normalisation, annonce l'éditorialiste du Financial Times. Mais quel est le normal en matière de monnaie? Il faut quand même avouer que c'est une vaste question.
Merci beaucoup Marie Guénon, on y reviendra sans doute sur cette question et cette ascension du Bitcoin. Je note ce concept de sous-jacent, donc qui est la chose elle-même, mais qui n'est pas encore forcément manifestée. C'était donc une demande du MEDEF, une réforme promise sous les quinquennats de Sarkozy et Hollande. Le Conseil des ministres adopte ce projet de loi sur le droit à l'erreur. C'était aussi une mesure phare dans la campagne d'Emmanuel Macron. Le texte veut en fait initier un changement de philosophie dans les rapports avec l'administration, considérer l'usager ou l'entreprise comme étant de bonne foi dans ses démarches. C'est un changement en fait aussi du positionnement de l'État face à la société civile. Valentine Joubin.
Avec ce projet de loi d'une cinquantaine d'articles, le gouvernement n'entend rien de moins que de révolutionner le rapport du citoyen à l'administration, de passer d'une méfiance, voire d'une défiance, à une confiance. Et pour engager cette transformation, ce changement de paradigme, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, promet un changement d'attitude de la part des agents publics. Ils devront désormais incarner la bienveillance, chère à Emmanuel Macron, c'est-à-dire apporter un conseil, une information pour accompagner l'usager dans ses démarches avant que de manier la sanction, le bâton. Le citoyen, le chef d'entreprise, ne devra plus être considéré comme un potentiel fraudeur, mais comme une personne de bonne foi qui a pu se laisser déborder par la lourdeur administrative.
Alors, quelles sont les principales mesures ?
La mesure principale, c'est l'introduction dans la loi de ce fameux droit à l'erreur. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Concrètement, un chef d'entreprise ou un particulier qui aurait mal rempli sa déclaration par méconnaissance d'une règle ne subira ni amende ni privation de droit si elle a rectifié son erreur. Attention, cette indulgence n'est valable qu'une seule fois. Ainsi, pour les impôts, les intérêts de retard seront divisés par deux si le contribuable dépose spontanément une déclaration modifiée, rectifiée. Et plusieurs mesures concernent spécifiquement les entreprises. Elles pourront bénéficier d'un contrôle à blanc, un contrôle volontaire pour prendre connaissance de leur situation fiscale ou sociale avec la certitude de ne pas être sanctionnées. Autre mesure envisagée dans le même esprit, la généralisation du rescrit fiscal qui permet actuellement à une société d'interroger une administration sur sa situation. Elle pourrait être étendue aux services sociaux et douaniers. Enfin, l'inspection du travail pourrait désormais donner un avertissement au lieu de sanctionner l'entreprise tout de suite, un carton jaune au lieu du traditionnel carton rouge. Et pour que ce changement dans les textes se fasse aussi dans les têtes, le gouvernement promet 1,5 milliard d'euros pour former les agents publics à cette nouvelle attitude bienveillante.
Valentine Joubin, retour à l'actualité politique du week-end avec cette convention de la France Insoumise qui s'est tenue à Clermont-Ferrand. Hier, les militants ont tenté donc de clarifier leur organisation, mais aussi les moyens d'élaborer leur projet politique. La France Insoumise souhaite passer de son rôle d'opposant à celui de proposant. L'idée, c'était effectivement qu'après une période de fascination, le macronisme allait pouvoir être maintenant combattu politiquement. Sophie Delpont.
Oui, pour cela, deux leviers. Tout d'abord, le programme, encore et toujours réaffirmé par les militants et les cadres de la France Insoumise. Le programme porté pendant l'élection présidentielle, l'avenir en commun et ses livrets thématiques. Ce week-end, les trois axes majeurs des prochaines campagnes ont été définis. C'est le résultat d'une consultation en ligne ouverte à l'ensemble des plus de 555 000 adhérents de la plateforme France Insoumise. Ceux qui ont cliqué pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Plus de 69 000 personnes ont effectivement donné leur avis parmi 30 propositions et les trois thèmes les plus importants selon ces insoumis arrivent dans cet ordre. Lutter contre la pauvreté, sortir du nucléaire avec le développement des énergies alternatives et enfin lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Après le fond, les modes d'action, c'est le deuxième levier. Priorité à l'engagement militant avec la formation des adhérents France Insoumise aux méthodes de terrain pour aider les habitants à s'auto-organiser pour résoudre les difficultés du quotidien. D'abord, pour faire émerger ensuite la conscience d'un pouvoir citoyen capable de remporter des victoires sur des problèmes tels qu'un ascenseur en panne ou le remplacement en urgence d'une garde d'enfants, pour ensuite, dans un deuxième temps seulement, parler politique. Et puis vient la question fondamentale des alliances pour remporter des victoires dans les urnes. Jean-Luc Mélenchon martèle qu'il ne veut pas de tambouille, selon son expression, annonçant déjà qu'il y aura des candidats France Insoumise à chaque mandat législatif remis en jeu. Pas d'alliance par principe, ce qui ferme la porte pour l'instant à des alliances locales avec d'autres formations politiques, communistes ou socialistes par exemple. Il faudra prendre le temps d'y réfléchir par la suite, concèdent militants et cadres du mouvement.
Sophie Delpont, merci. À droite, à noter que le député Front National du Pas-de-Calais, José Évrard, décide de rejoindre les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot. Le FN perd ainsi un de ses 8 députés et dénonce une trahison impardonnable depuis qu'il a quitté le FN en septembre. Florian Philippot revendique donc sous la barrière des Patriotes 2 eurodéputés, une trentaine de conseillers régionaux, mais pour le moment aucun haut cadre frontiste. On passe à cette étude qui tente de mesurer le niveau de stress des salariés en entreprise, menée par un cabinet qui s'appelle Stimulus pendant 4 ans auprès de plus de 30 000 personnes, donc salariés qui travaillent dans 39 entreprises et qui conclut donc qu'un quart des salariés français sont dans un état d'hyperstress, en cause notamment le fait de devoir traiter des informations complexes et nombreuses et aussi le manque de temps que nous connaissons bien ici à la radio. Philippe Duport, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du travail donc à France Info. Un mot d'abord sur cette enquête, je donnais quelques chiffres, c'est vraiment tout sauf un simple sondage.
On reçoit beaucoup de ce type de sondage sur le stress et d'autres problématiques sur le travail. Celui-ci, ce n'est pas un sondage, effectivement, c'est une enquête longitudinale sur 4 ans. Vous l'avez dit, plus de 32 000 salariés étudiés par un cabinet très sérieux. On peut donc avoir toute confiance en ces résultats.
Un Français sur 4 hyper stressé. Qu'est-ce que ça veut dire, hyper stressé?
24% en effet, hyper stressé. Le stress, c'est un phénomène normal, naturel, salutaire. L'hyper stress, c'est ce qui met votre santé en danger. Voilà ce dont il s'agit.
Alors les autres, ils se disent simplement stressé, ou est-ce qu'il y a des catégories? Parce que j'ai l'impression que ça veut dire que 24% des personnes sont concernées relativement à leur santé. C'est ça que l'enquête prouve.
Tout
pas
à fait.
Seulement
24...
un stress naturel, si
24%
je veux dire.
En danger, effectivement, physique, de maladies coronariennes, par exemple, d'AVC ou de maladies cardiovasculaires, à cause du stress.
Alors c'est quand même énorme. Est-ce qu'il y a des causes? Évidemment, j'imagine qu'on a exploré aussi les causes.
Alors toutes les causes sont liées au travail. Hein. Vous l'avez dit, devoir traiter des informations complexes et nombreuses. On pense à la transition numérique qui est à l'œuvre dans les sociétés, ce qu'on appelle aussi l'infobésité.
Complexe et nombreuse, mais de plus en plus rapidement.
De plus en plus rapidement. En effet, 62% de ces salariés disent manquer de temps. 88% disent mon métier nécessite que je m'adapte sans cesse. Et puis il y a aussi quelque chose qui les inquiète beaucoup, qui les stresse beaucoup. Pour les trois quarts, impossible de prévoir ce que sera mon métier, ce que seront mes conditions de travail dans 2 ans. Et ça, c'est très stressant.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de la disparition des métiers, par exemple, du fait que les choses sont mouvantes et que peut-être il faudra faire plusieurs choses en même temps.
Tout à fait, c'est la transformation digitale des entreprises qui inquiète beaucoup les salariés.
Méthode de management, on en a beaucoup parlé aussi ces dernières années. Est-ce que là aussi elles sont en compte dans cette enquête prise en compte?
Écoutez, c'est très clair quand on voit cette enquête, puisque l'un des facteurs les plus stressants, c'est le manque d'autonomie. Peut-être moins fréquent que par exemple le fait de devoir traiter les informations complexes et nombreuses, mais le manque d'autonomie est un facteur extrêmement stressant. C'est directement quelque chose lié à un management qui ne fait pas assez confiance, qui ne délègue pas, et là on a un problème un peu franco-français, il faut le dire.
Philippe Duport, merci beaucoup, je renvoie donc à votre chronique, c'est mon boulot sur France Info. Frédéric Worms, bonjour.
Bonjour.
Philosophe, vous êtes venu pour nous parler de ce qui se passe dans la République aujourd'hui, et des tensions du débat politique qui prend parfois des tournures un peu violentes, peut-être un peu stressées également. Alors là, à l'instant, Philippe Duport parlait d'autonomie et de stress. Pourquoi est-ce que finalement le fait de perdre son autonomie, ça serait stressant?
Ce qui est frappant, la notion de stress est apparue après la Seconde Guerre mondiale. Elle désigne en effet un paramètre de l'adaptation à l'environnement. Et quand l'environnement bouge, cette faculté d'adaptation est sollicitée, peut devenir pathologique. Et ce qui a été dit est très juste, le stress est normal, mais l'hyperstress ne l'est pas. Et on pourrait se demander si ce ne serait pas aussi parfois à l'environnement de s'adapter au sujet. Il faut une place pour le sujet. Il y a une épaisseur psychique des citoyens, j'allais dire, et il faut en tenir compte.
Est-ce qu'on peut imaginer un mouvement qui s'appellerait « Balance ton stresseur » ?
Non, je pense que ce serait... L'hyperstress peut venir d'un harcèlement, il ne faut pas le nier, mais gardons les catégories chacune à leur place. On peut être stressant sans être harcelant. Ceci dit, il n'y a peut-être pas d'hyperstress sans harcèlement.
Frédéric Worms, merci. On vous retrouve dans quelques minutes donc pour la dernière partie de la grande table. Les dirigeants de l'Union européenne, de l'Union chrétienne démocrate, pardon, d'Angela Merkel, accepte la recherche de la formation d'une grande coalition avec le Parti social-démocrate sous la pression du président de la République et des conservateurs. Le SPD a accepté donc d'ouvrir des discussions pour reconduire cette grande coalition analogue à celle du gouvernement sortant. Nous sommes 2 jours après l'attaque sanglante dans le Sinaï, un commando qui massacre 305 fidèles. d'Israël dans une mosquée dans le nord donc de la province. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman affiche sa détermination à combattre l'extrémisme. Il a redit hier parce qu'il accueillait à Riyad les pays membres de ce qu'il appelle la coalition islamique antiterroriste qui était créée par la monarchie wahhabite. Une quarantaine de pays musulmans étaient représentés et il a évoqué donc cette attaque, le prince héritier. Il parle d'un événement très douloureux qui doit nous inciter à envisager une réponse forte et internationale à ce terrorisme, à cet extrémisme. Mais il n'y a pas eu vraiment de résultats très concrets, Nabila Hamel.
Oui, continuer à pourchasser les terroristes jusqu'à ce qu'ils disparaissent de la terre. Ce sont les objectifs exposés hier par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, deux jours après l'attentat dans une mosquée sunnite du Sinaï en Égypte. Alors la coalition en question n'est pas une création nouvelle. Elle avait été lancée en décembre 2015 sans avoir pris à ce jour de mesures concrètes. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite veut lui donner une existence réelle, une capacité militaire, des finances, une politique de renseignement. Une quarantaine de ministres de la défense de pays arabes, africains et asiatiques ont donc été invités hier à Riyad pour, je cite, « commencer la phase de lutte contre le terrorisme ». L'état-major de cette coalition sera présidé par un général pakistanais. Le haut-gradé saoudien qui en sera le secrétaire général a parlé de plusieurs initiatives militaires, mais sans entrer dans les détails. Voilà tout ce qu'on sait de cette nouvelle alliance militaire chargée de combattre le terrorisme. Mais il s'agit aussi de savoir ce que Riyad attend de ses partenaires en matière de lutte antiterroriste, car cela ressemble aussi à un exercice destiné à obtenir également des soutiens dans sa politique internationale. Une politique pour le moment sous-tendue par sa rivalité avec le voisin iranien. La délégation yéménite, par exemple, a mis l'accent hier sur la lutte contre l'Iran, contre Al-Qaïda et contre le I. Quant à la délégation turque, elle a demandé à ce que son pays soit soutenu face aux séparatistes kurdes.
Merci beaucoup Nabila Hamel. On est en ligne avec David Kalfa, spécialiste de questions de sécurité et de politique étrangère, notamment dans cette région. Bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on peut finalement lire cet événement, cet attentat, terrible attaque, il y a deux jours donc dans le Sinaï, je rappelle, plus de 300 fidèles tués. Quel est le principal enseignement aujourd'hui avec le recul que l'on peut avoir, même si l'attentat n'a pas encore été revendiqué?
Il y a une volonté claire en fait de l'État islamique de montrer que c'est une organisation résiliente en dépit de la perte de son assise territoriale en Irak et en Syrie. Et je pense que le deuxième enseignement, il est que l'Égypte a vraiment beaucoup de difficultés à intégrer à sa stratégie antiterroriste une véritable doctrine anti-insurrectionnelle, c'est-à-dire une doctrine qui prendrait en compte les facteurs non seulement de type militaire, sécuritaire, mais aussi politiques, économiques et sociaux.
Et on voit aussi avec cette réunion en Arabie Saoudite les difficultés que peuvent avoir des pays comme l'Arabie Saoudite, mais aussi l'Égypte, à dire qu'il y a un ennemi principal qui est la puissance iranienne dans la région, et d'autre part, les ennemis de l'intérieur qui sont issus précisément du mouvement sunnite. Comment est-ce que le prince, notamment le prince héritier, voit cette question? Est-ce que ça ne prend pas l'Arabie Saoudite finalement dans un porte-à-faux par rapport à ses déclarations, à son discours?
Je pense que cette volonté du prince de créer un bloc, une alliance de revers en quelque sorte, en réalité anti-iranienne, puisque la Syrie et l'Iran ne sont pas membres de cette alliance militaire. Il faudra d'ailleurs voir aussi analyser sa traduction concrète et opérationnelle. Je pense que sa volonté, c'est clairement de contrer l'influence de l'Iran dans la région. Le problème, c'est que la guerre par procuration que mènent l'Arabie Saoudite et l'Iran pour contrôler en fait le Moyen-Orient, c'est une guerre aussi à visée politique, avec un soubassement religieux. Concrètement, aujourd'hui, c'est l'Iran qui semble la gagner. En tout cas, pour l'instant, les batailles sont gagnées par l'Iran, parce que l'Iran a une stratégie d'entrisme qui passe par le soutien direct ou indirect à des milices locales, irakiennes, pakistanaises, afghanes, syriennes, et qui permettent à l'Iran justement de contrôler un certain nombre de territoires sans s'impliquer de manière directe et massive, puisque ce sont les Pasdaran, notamment les officiers de renseignement supérieur iraniens, qui fournissent l'instruction et l'aide logistique et financière, mais ce sont ces milices locales qui font l'essentiel du travail sur le terrain. Or là, il y a clairement, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, elle est en perte de vitesse, même si elle contient l'insurrection houthi au Yémen. La question, c'est de savoir si cette alliance militaire permettra à l'Arabie Saoudite de regagner du terrain, le terrain perdu sur l'Iran qui contrôle aujourd'hui quatre capitales arabes, hein, Sanaa, Bagdad, Beyrouth et Damas.
Il y a aussi le problème pour l'Égypte, hein, du Sinaï, de cette péninsule qui n'arrive pas du tout à être contrôlée de façon efficace par le général Al-Sissi.
Alors, c'est très compliqué parce que la péninsule sinaïtique, c'est un territoire vaste, aride. Il y a entre 400 et 600 000 habitants, essentiellement des tribus bédouines dont les allégeances sont transfrontalières. Donc il y a un problème qui est lié tout simplement à la question de la légitimité politique. C'est un territoire en plus qui historiquement aussi a été marginalisé économiquement, socialement. Donc il y a une difficulté en fait pour le pouvoir central, pour le Caire, à essayer de trouver des alliances avec les tribus locales, qui est pour moi en tout cas la question clé qui permettrait justement à l'Égypte de mater ou en tout cas de contenir l'insurrection djihadiste, parce que le problème de l'insurrection djihadiste aujourd'hui, c'est pas tellement ses moyens, hein. Il y a entre 1000 et 1500 combattants djihadistes, essentiellement égyptiens, mais aussi étrangers dans le Sinaï. L'armée égyptienne est très équipée, mais elle n'a pas, sur le plan, ses moyens ne sont pas adaptés, si vous voulez, à la réalité de cette lutte qui implique, encore une fois, un soutien de la population locale.
David Kalfa, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. On termine avec le feuilleton, la série qui s'appelle Glyphosate. Depuis 2 ans maintenant, date à laquelle l'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme cancérigène probable chez l'humain, l'Europe n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur le renouvellement de la licence de l'herbicide produit par Monsanto. Et donc, pour la 8e fois, en 2 ans, des représentants des États membres vont se réunir tout à l'heure à Bruxelles pour tenter de s'entendre sur le sort de ce glyphosate. Après avoir défendu une prolongation de son autorisation pour 10 ans, la Commission européenne se propose désormais 5 ans. Son dernier mot, alors que la France ne souhaite pas, elle, aller au-delà de 3 ans assortie d'une sortie programmée de ce pesticide. Si cet après-midi, donc, les États membres ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord, eh bien, le sort du glyphosate reviendra de facto à la Commission européenne. Pour parler de ce qui se passe en ce moment et aussi sur le plan finalement institutionnel de la prise de décision en Europe, nous sommes en ligne avec l'eurodéputé José Bové. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on va vers un accord tout à l'heure déjà, selon vous ? Politique.
Écoutez, selon les dernières informations, il n'y aura pas d'accord. À mon avis, les majorités vont pas bouger, ou très peu. Peut-être que quelques abstentionnistes se feront tordre le bras pour aller en faveur de l'accord à 5 ans, mais a priori, je ne le crois pas, et c'est ce que craint d'ailleurs la Commission européenne, qui à plusieurs reprises a dit qu'elle ne voulait pas prendre la décision et qu'elle voulait laisser aux États, donc aux politiques, d'assumer leurs responsabilités. Or, je crains qu'on aille clairement vers, en fait, le système classique habituel. Les États n'assument pas leurs responsabilités et, en dernier ressort, c'est la Commission qui tranche.
Voilà, donc s'il y a un accord politique, ce sera 5 ans, et s'il n'y a pas d'accord politique, ce sera 5 ans, mais cette fois décidé par la Commission, c'est un peu la situation, et surtout sans velléité même de volonté de sortir de l'utilisation du glyphosate.
Alors, c'est ça qui est quand même paradoxal, mais c'est en même temps assez logique. Puisqu'on a vu que la France a mené une campagne et Nicolas Hulot a été en première ligne, et c'est vrai qu'il avait changé un certain nombre de pays d'orientation, il est arrivé à coaliser un certain nombre de pays significatifs, il a obtenu de l'Allemagne qu'en gros elle s'abstienne, donc la dynamique était lancée, plus 1 million de citoyens ont demandé la sortie du glyphosate et ça a été... Ce texte, cette pétition a été reçue par la Commission européenne et donc il faudra bien qu'elle fasse avec aussi dans les mois à venir. Mais le problème fondamental qu'on a, c'est qu'on voit bien que si on n'est pas capable de prendre une décision, c'est qu'aussi le système d'évaluation du glyphosate, mais je pourrais parler des OGM ou d'autres produits chimiques, est aujourd'hui complètement obsolète au niveau européen puisque toutes les analyses qui sont faites d'abord par les États membres, une agence d'un État membre qui est sollicitée par les industriels fait la première analyse, puis ensuite l'agence européenne regarde l'analyse qui a été faite et donne son tampon. Évidemment, ceci est complètement obsolète, d'autant plus que certains aspects simplement sont pris en compte. Les aspects dits scientifiques, et on a bien vu avec Monsanto, les Monsanto Papers, comment il en était au niveau de l'Union européenne, mais on ne prend pas en compte ni les questions environnementales, ni les questions socio-économiques. Et donc, on a une évaluation qui est mal faite, qui est restreinte et qui, en plus, est cornaquée par l'industrie.
Ça ne vous empêche pas de continuer d'être un député européen, José Bové ? Ou pro-européen ?
Je dirais au contraire, parce que, justement, faire changer la façon dont les évaluations se font, c'est un premier combat et c'est absolument essentiel qu'on sorte de la logique de l'agro-industrie. Et ça, on ne peut le faire qu'au niveau européen, parce que quand on voit la pression déjà de ces industriels, un pays seul ne peut rien faire. Donc, il faut faire changer les évaluations. Deux, il faut changer le mode de décision. À partir du moment où on a un certain nombre de pays qu'on pourrait appeler une minorité de blocage, disent « on ne veut pas de ce produit », eh bien, il faut inverser la logique. C'est le principe de précaution. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait simplement une majorité contre. Il faut qu'il y ait une minorité de blocage. Et donc, c'est un changement et c'est se mettre en adéquation avec le principe de précaution qui a été mis en place au niveau européen comme au niveau national d'ailleurs.
Merci. Merci beaucoup, José Bové, d'avoir été en ligne avec nous. On termine avec cette petite histoire assez édifiante. En Allemagne, on ne plaisante pas avec l'allocation chômage. Voilà l'histoire d'un chômeur de longue durée qui bouclait ses 20 mois en faisant la manche dans les rues de Dortmund et qui a vu ses indemnités réduites de plusieurs centaines d'euros, Cyril Sauvageau.
A-t-on le droit de cumuler indemnité chômage et mendicité? La question peut paraître absurde. Elle se pose très sérieusement pour Michael Hansen, un chômeur de Dortmund, dont l'histoire a ému l'Allemagne ces derniers jours après un article paru dans la presse régionale. Ce demandeur d'emploi de 50 ans avait pris l'habitude de mendier dans les rues piétonnes de sa ville pour compléter son Hartz-IV, l'allocation chômage, à peine plus de 700 euros par mois pour lui et son épouse. Rien d'exceptionnel à cela. En Allemagne, de nombreux chômeurs en sont réduits à mendier ou à collecter les bouteilles vides consignées pour récolter quelques euros supplémentaires. Seulement voilà, une employée de son job center a repéré Michael dans la rue et n'a pas hésité à le dénoncer. Depuis, l'administration a décidé de sévir en réduisant de 300 euros ses allocations. Motif, il se livrerait, je cite, à une collecte de dons privés. Une avocate de Dortmund, scandalisée par cette affaire, a décidé d'engager des poursuites, mais le pôle emploi allemand se défend en disant vouloir tout simplement faire respecter la loi. L'histoire de Michael Hansen est un cas d'école. Elle démontre la sévérité de l'administration allemande vis-à-vis des chômeurs. Depuis les réformes Hartz des années 2000, tout est fait pour pousser les demandeurs d'emploi à reprendre une activité et tous les moyens sont bons pour y parvenir.
La météo perturbée au nord, ensoleillée au sud, température de 9 à 14 degrés, qui pourrait être seulement de 4 à 8 degrés dans le nord-est. Édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.